On va écouter maintenant Ying Zhang Colin et Maria Teresa Giannotto.
Maria Rosaria.
Oh pardon, mille excuses. Mille excuses. En plus, c'est écrit sur Zoom. J'ai vraiment aucune excuse. J'avais bon pour le nom de famille. La première vient de l'université de Grenoble-Alpes et l'autre de l'université à Montpellier de Paul Valéry. Et elles vont poursuivre sur une réflexion historico-épistémologique. Merci beaucoup. Pareil, je vous ferai un petit signe quand vous en serez à 3 minutes avant la fin.
D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, l'enseignement-apprentissage du chinois langue étrangère a une longue histoire qui se situe au croisement de la didactique du chinois L1 et de l'histoire de la didactique des langues. La didactique du CLE hérite ainsi de la riche tradition philologique et pédagogique chinoise, c'est-à-dire de cette tradition d'éducation linguistique essentiellement lexicale et sinographique à destination des jeunes chinois, avec une riche production de méthodes d'apprentissage de mots et de caractères, puis commence véritablement avec le développement de l'enseignement d'apprentissage du chinois par et pour les étrangers, tout d'abord à destination des populations voisines, pensons notamment aux méthodes pour les apprenants asiatiques, coréens par exemple. Et dans un deuxième temps, nous avons le développement de l'apprentissage des langues chinoises par les Européens, avec l'établissement des missions et une série d'importantes adaptations pour ce public qui auront une forte influence, raison pour laquelle nous en parlons, sur l'histoire de la linguistique et de la didactique du chinois. Tout d'abord, les premières transcriptions en lettres latines apparaissent pour faciliter l'apprentissage de la prononciation, et notamment du système tonal. Puis surtout, nous assistons au développement des études grammaticales et à l'élaboration des premières grammaires des langues chinoises. L'apprentissage du chinois par les Européens présente en fait des défis, encore aujourd'hui, et des spécificités. Il s'agit de l'apprentissage d'une langue distante, une langue typologiquement différente, sans racines lexicales communes, caractérisée par un système tonal et avec un système d'écriture non alphabétique. Le profil des apprenants occidentaux doit également être clairement distingué de celui des apprenants asiatiques, qui peuvent s'appuyer sur des formes d'intercompréhension, dues aux racines lexicales communes et à l'exposition au graphème. Ainsi, si l'on se concentre sur l'apprentissage du chinois ou des langues chinoises par les occidentaux et surtout par les Européens, on peut, selon Klöcker, identifier 3 étapes. Une phase initiale qui correspond au premier cours et cursus pour l'apprentissage du chinois par les Européens, le cursus studium des jésuites, puis l'élaboration du cursus par les missionnaires protestants. Une phase intermédiaire qui voit l'institutionnalisation progressive de la discipline en Europe à partir du XIXe siècle. Et la période moderne, à partir de la moitié du XXe siècle, période à laquelle nous nous intéresserons aujourd'hui et qui est marquée par un très fort développement de l'enseignement en apprentissage du chinois dans tous les pays européens et en France en particulier. C'est la période qui voit le développement de la didactique du CLE en tant que discipline à part entière. Et je laisse donc la parole à ma collègue.
Merci. Donc, la didactique du chinois langue étrangère a une reconnaissance institutionnelle en Chine à partir des années 1980 et 1990. D'abord en tant que filière universitaire, ensuite en tant que discipline scientifique. Mais une approche historique et épistémologique montrait par ailleurs que les idées fondamentrices de la didactique du CLE sont pour partie issues des travaux menés aux États-Unis et en Europe dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en Chine continentale, c'est beaucoup plus tardif. Donc, si divers facteurs, par exemple culturels, sociaux, culturels, politiques, sont impliqués dans ce retard, ce sont aussi la réalité linguistique et la tradition éducative qui ont durement limité les recherches du CLE en Chine. Alors, sans entrer dans ces détails, je pense que tout à l'heure, Monsieur David Bell a un peu évoqué aussi. Donc, pour la période de la seconde moitié du XXe siècle, je proposerai surtout un aperçu des idées didactiques issues de la littérature occidentale. Alors, il représente également, en fait, les orientations scientifiques les plus importantes dans les recherches en CLE. Alors, ces exemples témoignent aussi de la façon dont les idées de la didactologie, au sens de Robert Galisson, ont été apportées et contextualisées dans la didactique des langues diverses, en tant que notamment théorie d'ensemble et théorie de variables. Alors, les premiers travaux didactiques remontent aux années 1940 et 1950, où la linguistique structurale a donné une forte impulsion à la modernisation de l'enseignement des langues étrangères de façon générale. Et ensuite, les recherches en linguistique chinoise, plus particulièrement en phonologie, en linguistique descriptive et contrastive, ont commencé à prendre plus d'importance dans les réflexions didactiques du club. On peut donc citer Zhao Yuanzhen, donc linguiste américain d'origine chinoise, qui est d'ailleurs considéré comme le père de la linguistique moderne chinoise, ainsi que sa méthode de chinois parlé, donc Mandarin Primer, donc Guoyu Zhumen, publiée en 1948 à l'université Harvard. Alors, cette méthode s'inscrit pleinement dans le courant américain de la méthodologie audio-orale, donc MAO. Et comme les autres méthodes issues de ce courant, elle a aussi été utilisée dans le programme de l'armée avant d'être importée, si on peut dire, dans les cours destinés aux civils. Et elle s'appuie de même sur les avancées linguistiques et constitue une méthode, on peut dire, moderniste du chinois langue étrangère. Et puis, à l'heure où les supports audio commençaient à se généraliser dans l'enseignement des langues, ces méthodes étaient accompagnées d'un enregistrement sur vinyle. Et contrairement aux anciennes méthodes qui focalisaient le plus souvent sur la grammaire ou sur le lexique, la méthode de Zhao donne la priorité à l'acquisition des aspects phonétiques et phonologiques. Donc, voici quelques extraits. Alors, si on peut y voir une description assez complexe du système phonologique et phonétique, on pourrait aussi y remarquer un certain rapprochement de l'enseignement du chinois de celui d'une langue occidentale. Et il est aussi à noter que la méthode de Zhao ne contient aucune leçon pour l'acquisition des caractères, du fait que la méthodologie audio-orale s'appuie essentiellement sur la réception auditive et sur la production orale. Donc, ceci représente aussi une vision de la linguistique structurale qui envisage le système oral et le système écrit comme relativement indépendants l'un de l'autre et qui rompt avec les approches traditionnelles qui faisaient apprendre en même temps l'oral et l'écrit en chinois. Après les travaux phonético-didactiques de Zhao, dans les années 1960 et 1970, l'attention des chercheurs s'est davantage tournée vers le renouvellement des approches du chinois en se référant aux nouvelles théories didactologiques. On peut par exemple citer l'exemple de la France où la politique linguistique volontarisme a largement favorisé l'enseignement et l'apprentissage des langues. Donc, l'introduction du chinois dans l'enseignement secondaire français dès la fin des années 1950 a fait apparaître de nouveaux enjeux éducatifs et pédagogiques pour les recherches en CLE. Donc, différents acteurs, notamment les enseignants, chercheurs, éditeurs, ont commencé à repenser une conception plus adaptée au CLE. Alors, dans ce contexte, trois manuels ont retenu notre attention. Donc, les trois peuvent être inscrits dans un cadre méthodologique préexistant, mais ils ont aussi été contraints de modifier plus ou moins ce cadre pour s'adapter à l'enseignement des caractères chinois. Alors, ces adaptations et les réflexions didactiques appliquées dans ces manuels sont un bon reflet de l'état des recherches en CLE dans ces années-là, bien qu'on sait en ce moment-là les recherches en CLE soient encore très marginales et dispersées. Alors, peut-être pour les questions de temps, je vais peut-être me contenter de les évoquer très rapidement et vous montrer quelques extraits. Donc, le premier, c'est le manuel élémentaire des Chinois de Pénélope Bourgeois, publié en 1964. Donc, il était alors présenté comme le premier manuel de Chinois à l'usage des élèves de lycée. Et il contient aussi une certaine adaptation des méthodes de chinois langue maternelle à l'enseignement du chinois langue étrangère. Ensuite, le chinois par la méthode directe, donc Huihuihua, dont l'auteur se nommait Lan Yanzhu, est publié en 1966 pour le tome 1. Donc, la méthode avait aussi fait l'objet d'une expérimentation à Singapour et a prétend aussi remplacer l'étude analytique du chinois, qui est jugée trop compliquée et trop lourde. Ensuite, le troisième est aussi celui qui nous paraît le plus intéressant, est une méthode SCAV, donc Structural Global Audiovisuel pour le chinois. La méthode intitulée Hanyu Shiting Keben est publiée en 1974 par Titier. Elle est aussi le fruit d'un travail d'une équipe de plusieurs enseignants-chercheurs et constitue une approche vraiment très intéressante à la fois pour l'enseignement de l'oral et pour celui de l'écrit. Donc, enfin, nous arrivons à la période contemporaine. Donc, dans les années 1980, la construction d'une problématique propre au CLE commence à prendre de la consistance, d'abord en France et puis en Chine et dans les autres pays. Donc, dans ce cadre, deux thématiques de recherche sont particulièrement importantes. Donc, la conception des seuils de Carter et la théorisation d'une approche dite orale écrite. Alors, le concept de seuil de Carter, en fait, il a un peu le même principe que le français élémentaire pour le FLE, mais s'applique plus spécifiquement sur la sélection des sinogrammes. Alors, l'idée est issue notamment de l'enseignement du chinois dans l'enseignement secondaire français, dont l'objectif était d'encadrer les pratiques de Carter et limiter le lexique inconnu dans les épreuves de baccalauréat. Donc, apparue dans les programmes officiels dès 1979, elle a surtout été conceptualisée en tant que SMIC, donc seuil minimum indispensable de Carter vers la fin des années 1980. Alors, le concept a été essentiellement mis en pratique par une approche dite rationnelle ou raisonnée qui consiste à élaborer des leçons autour de ces seuils. Alors, à ce sujet, on pourrait mentionner la méthode d'initiation à la langue et à l'écriture chinoise de Joël Bellassen, publiée en 1989, qui était une des méthodes, ou même on peut dire la méthode la plus utilisée dans l'enseignement secondaire en France jusqu'aux années 2010. Mais aussi le chinois comme en Chine, conçu par Bernard Alanik et paru en 2009. Or, malgré l'aspect novateur de cette approche, il faut aussi souligner le caractère expérimental du concept de seuil. Parce que le premier seuil de Joël Bellassen, qui contient 400 caractères pour la fin du cycle terminal, est fondé notamment sur une étude empirique menée par une petite équipe d'enseignants et d'experts de chinois. Et ensuite, par la suite, pour combler ces lacunes, donc dès les années 2000, des travaux plus approfondis sur la fréquence de Carter et sur l'acquisition des sinogrammes par les apprenants non natifs ont été menés en France. Donc, ces travaux sont d'ailleurs en grande partie dirigés par Joël Bellassen et Bernard Alanik. Alors, parallèlement à ces travaux, une autre approche prend désormais de plus en plus d'importance dans les recherches en CLE. Il s'agit d'une approche dite dissociée orale à écrit, dont le principe consiste en une disjonction ou en une désynchronisation des compétences écrites et orales. Donc, l'objectif est de sorte que l'apprentissage des caractères chinois n'entrave pas le développement des compétences orales. Dans le schéma ici retiré du programme scolaire de 2002 illustre parfaitement cette idée d'une progression distincte entre l'oral et l'écrit. Alors, si cette idée largement approuvée par sa pertinence a été adoptée par plusieurs méthodes publiées au cours de ces dernières années, On doit rappeler que l'approche dissociée orale et écrite ne constitue pas une méthodologie harmonisée, mais une conception générale. Donc, il y a non seulement des différences de conception lorsqu'il s'agit de la disjonction de l'oral et de l'écrit ou de la désynchronisation. Alors, les degrés de dissociation sont également très variables selon le cadre pédagogique et selon les objectifs visés. Enfin, l'apport le plus important de cette approche concernant l'enseignement des carters, qui est depuis longtemps un problème central de la didactique du CLE. Alors, cette dissociation entre l'oral et l'écrit permet enfin de dépasser plusieurs oppositions, notamment l'opposition entre une conception communicative et une conception sinographique. Donc, dans une perspective actionnelle, il construirait aussi une piste très intéressante permettant de repenser les différentes compétences langagières mises en texte par le CECR. Et pour ces questions, je redonnerai la parole à ma collègue.
Merci. Effectivement, la publication du cadre et le développement de la perspective actionnelle ont exercé une énorme influence dans l'apprentissage des langues en Europe. Le cadre est devenu une référence importante, voire incontournable, dans l'enseignement-apprentissage des langues extrême-orientales. Et le cadre exerce aussi une influence importante sur l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation des langues, non seulement en Europe, mais aussi dans des pays asiatiques. Le cadre a été traduit en Chine continentale en 2008 et Fouron a écrit à parler pour le cadre d'un document européen à valeur historique et affirme que l'intérêt et l'utilité de la diffusion du cadre dans sa version chinoise en Chine, donc, et plus particulièrement en milieu institutionnel chinois des langues, ne sont plus établis. Il est ainsi pris en compte pour les tests certificatifs de chinois. Toutefois, son utilisation dans l'enseignement-apprentissage du chinois en Europe a fait et fait l'objet de réflexions et questionnements. Diverses positions et approches coexistent qui vont du rejet de cadres comme non adaptés à l'enseignement-apprentissage de cette langue, notamment pour une partie des pédagogies centrées sur les caractères ou inspirées des approches pédagogiques du chinois élan, à l'établissement de correspondances entre le cadre et des référentiels élaborés pour le chinois. Par exemple, on peut penser au test certificatif HSK. Ou encore, on trouve l'adoption du cadre, mais un moyen d'adaptation, par exemple avec la référence à des supports visuels, avec des compétences spécifiques ou des modulations. Parmi les réflexions sur le cadre et la didactique du chinois en langue étrangère, il convient de mentionner le projet IBCL, un projet mené conjointement par 4 universités européennes qui se proposait de créer un cadre de référence pour le chinois basé sur le cadre européen commun de référence. La question centrale du projet concernait l'applicabilité de ce cadre à l'enseignement-apprentissage du chinois, c'est-à-dire quelles sont les spécificités, que c'est la suivante, quelles sont les spécificités de la langue chinoise et comment les traiter. La conclusion générale du projet est que le cadre est largement applicable à la langue chinoise avec quelques modifications. En particulier, l'écriture chinoise, une écriture non alphabétique, nécessite une attention particulière lors de l'enseignement et de l'évaluation. Parmi les propositions d'adaptation pour prendre en compte les spécificités de cette langue, nous avons par exemple la référence au support visuel dans le descripteur, par exemple, de la compréhension écrite. Ici, vous avez des exemples, des descripteurs élaborés dans le cadre du projet IBCL. Puis, comme déjà évoqué, il y a la création d'une catégorie, celle de la compétence graphémique, par rapport à la compétence orthographique des langues européennes, pour prendre en compte les spécificités de l'écriture chinoise. Ce contrôle graphémique est considéré comme le prérequis le plus complexe pour toute étape de la compétence en lecture et en écriture en chinois. La compétence graphémique comporte deux aspects. La compétence sinographique, c'est-à-dire l'apprentissage des caractères chinois au sinogramme, et la compétence en lecture et écriture du pinyin, c'est-à-dire le Hanyu pinyin est le système de romanisation adopté en République populaire de Chine, un système qui est utilisé pour la saisie informatique du chinois, mais aussi comme support de l'oral pour aider à acquérir une bonne prononciation des phonèmes et des tons, comme le rappelle Hua. Le recours au pinyin, c'est-à-dire à des formes de romanisation d'inscription phonétique, nous renvoie à l'histoire de l'apprentissage du chinois par les premiers Par rapport l'apprentissage du chinois par les premiers Européens qui ont eu tout de suite recours à des formes de romanisation pour apprendre le chinois, et nous renvoie aussi à la différence entre chinois élan et chinois langue étrangère. En fait, comme le souligne Gouda, les locuteurs natifs de chinois ne connaissent pas toujours bien le pinyin. Cependant, le pinyin est de loin le système de transcription le plus utilisé pour la langue chinoise. Et il est nécessaire pour pouvoir visualiser la prononciation, pour l'utilisation de la plupart des dictionnaires et pour la saisie numérique des caractères chinois. Par conséquent, la compétence de lecture et d'écriture en pinyin est fortement recommandée comme compétence supplémentaire pour les apprenants européens de chinois. Les BTL proposaient ainsi une adaptation du cadre à l'apprentissage de la langue chinoise par les apprenants européens, fournissant une description détaillée des compétences pour les niveaux A et A2, ici, des exemples de descripteurs pour la compétence graphémique. Un des points de difficulté du projet a été la question du nombre de caractères et des mots connus, c'est-à-dire le choix concernant l'adoption ou non des listes de mots et de caractères qui sont finalement proposés pour les niveaux A1 et A2. En fait, comme le rappelle Kloeter, l'assimilation de la compétence en chinois à la mémorisation réussie de graphèmes est profondément enracinée dans une tradition sinologique qui se concentrait sur l'analyse des textes écrits. Ce qui fait que les apprenants de chinois possèdent en général un meilleur niveau en lecture qu'en compréhension de l'oral, comme le souligne Guo. Malgré la difficulté d'apprentissage de l'écrit, ou bien justement en raison de la difficulté d'apprentissage de ce système d'écriture, qui conduit à se focaliser sur les caractères. Toutefois, cela est aussi le reflet d'une tradition didactique centrée sur l'exégèse et sur l'analyse de l'écrit, et le reflet aussi de l'application au chinois langue étrangère des approches à l'origine destinées au chinois élan. Et on revient là à l'histoire de la discipline. Ce qui a d'importantes implications dans l'enseignement-apprentissage du chinois, ainsi que sur l'évaluation des compétences en chinois, parce que comme le souligne Guo, M. Kloeter, qui affirme que la quantité de vocabulaire connu est un critère principal de distinction des niveaux du test par HSK, le plus important test certificatif du chinois. Ainsi, plusieurs seuils de caractères ou de mots sont proposés pour le creux, avec des grandes divergences entre les différents référentiels, ce qui nous amène encore une fois au questionnement sur la pertinence de ces listes en général et en particulier pour le niveau intermédiaire avancé, question qui fait l'objet de débat dans la didactique du chinois. Il est aussi important de rappeler que l'approche de la désynchronisation des compétences, déjà présentée par ma collègue, est intégrée dans les descripteurs du projet BCL et comme le souligne Guojin, par exemple pour le niveau A2, les BCL proposent des listes différentes pour les activités de production écrite et pour les activités de production orale, ce qui est primordial pour évaluer la compréhension de l'oral chinois. Par ailleurs, pour la compréhension de l'oral, des modulations par rapport au cadre sont proposées. À part la désynchronisation des compétences, des conditions supplémentaires sont ajoutées, comme la référence non seulement à des supports visuels, mais aussi à la présence de mots connus dans les descripteurs du niveau A2. Ainsi, pour conclure, on peut rappeler donc que cette histoire de l'enseignement d'apprentissage du CLE en France se situe au croisement de plusieurs traditions d'études linguistiques et didactiques. Nous avons tout d'abord la transposition de méthodes et d'idées didactiques liées à l'enseignement du chinois élan, mais l'histoire récente de la didactique du chinois en France a été nourrie par les interactions entre les recherches sur le CLE menées en Chine et les recherches sur la didactique des langues développées en France et en Europe. Il s'agit d'une histoire marquée par des ruptures et des innovations, mais aussi des formes de continuité par rapport à ces traditions. Nous y trouvons ces mélanges d'approches et de ces superpositions qui, comme le rappellent Howard et Smith, caractérisent souvent la didactique des langues. Et à part ce mélange d'approches de la plastique de la plupart des enseignants par rapport à des publics relativement homogènes, il est important de souligner que différentes approches coexistent pour répondre à des besoins spécifiques de publics différents. Pensons à la différence entre les apprenants Lansad par rapport aux étudiants MEF, ce qui fait qu'une place différente pourra être reconnue à la compétence sinographique, à la description linguistique, à la disjonction entre écrit et oral, en fonction des besoins des différents publics d'apprenants. Je vous remercie.
Merci beaucoup.